Bonjour à tous, voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres, Beauce et Perche, animée par Marie-Christine de Vels. Je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui Anne Boussicot-Ménéra, qui est prédicatrice laïque dans notre paroisse et qui va venir nous parler de la façon d'être à la fois citoyen et chrétien. Comment vivre chrétiennement dans le monde? Singulièrement, on ne peut d'un regard contempler ce beau chef-d'œuvre du monde universel en sa longueur et largeur qu'on ne soit, par manière de dire, tout ébloui d'abondance infinie de lumière.
Pour Calvin, l'observation du monde permettrait de subodorer l'existence de Dieu, ce Dieu qui nous a enfantés pour être libres, mais aussi pour sauvegarder la création, ce qu'on verra avec un texte du deuxième chapitre de Genèse, ou pour la dominer, le premier chapitre de la Genèse. La question est donc de savoir ce que nous comptons faire de cette liberté. En cette période électorale, il m'a semblé important de m'interroger sur l'écologie, et ce qui suit ne représente que quelques réflexions sans prétention à donner une solution. L'écologie, c'est d'abord une branche des sciences de la vie, mais aussi un courant d'idées en tête d'une longue liste de préoccupations sociales et politiques. Quoi qu'il en soit, il est question des relations enchevêtrées entre le vivant et son milieu, et cela nous concerne à double titre. En tant que citoyens, par les options futures de ceux que nous aurons choisis pour gouverner, et en tant que chrétiens. C'est bien sûr essentiellement sur cela que je voudrais que nous réfléchissions aujourd'hui. Je vous propose donc d'entendre au premier chapitre de la Genèse, les versets 9 à 13, puis 20 à 31, ce qu'on appelle le premier récit de la création.
Dieu dit que les eaux inférieures au ciel s'amassent en un seul lieu et que le continent paraisse. Il en fut ainsi. Dieu appela terre le continent. Il appela mer l'amas des eaux. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre se couvre de verdure, d'herbes qui rendent féconde sa semence, d'arbres fruitiers qui, selon leur espèce, portent sur terre des fruits ayant en eux-mêmes leur semence. Il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe qui rend féconde sa semence selon son espèce, des arbres qui portent des fruits ayant en eux-mêmes leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Dieu dit que les eaux grouillent de bestioles vivantes et que l'oiseau vole au-dessus de la terre face au firmament du ciel. Dieu créa les grands monstres marins, tous les êtres vivants et remuants selon leur espèce, dont grouillèrent les eaux, et tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds et prolifiques, remplissez les eaux dans les mers et que l'oiseau prolifère sur la terre. » Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, petites bêtes et bêtes sauvages selon leur espèce. Il en fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce et toutes les petites bêtes du sol selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il soumette les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre et toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieieu, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds et prolifiques. Remplissez la terre et dominez-la. Soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et toute bête qui remue sur la terre. Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe qui porte sa semence sur la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence, ce sera votre nourriture. À toute bête de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui remue sur la terre et qui a souffle de vie, je donne pour nourriture toute herbe mûrissante. Il en fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Voilà, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, sixième jour.
La crise écologique dévoile des aspects théologiques et spirituels. On pourrait reprocher à la pensée juive et chrétienne d'avoir encouragé une mentalité dominatrice dans la relation de l'homme à la nature. Le contre-modèle marginalisé de la spiritualité franciscaine de fraternité universelle des créatures n'aurait pas résisté au courant principal d'arrogance envers la nature. La crise manifesterait les conséquences sans merci du christianisme. Mais même si elle semble utiliser un symbolisme issu de la tradition biblique, l'arrogance en question est-elle vraiment une expression authentique d'espérance chrétienne ? Vous avez bien entendu « faisons l'homme à notre image ». De là à penser qu'il est peut-être responsable du maintien de l'ordre voulu par Dieu, je vous propose pour cela d'écouter au deuxième chapitre de la Genèse, ce qu'on appelle le deuxième récit de la création.
Il n'y avait encore sur la terre aucun arbuste des champs et aucune herbe des champs n'avait encore germé, car le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Mais un flux montait de la terre et irriguait toute la surface du sol. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec de la poussière prise du sol. Il insuffla dans ses narines l'haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden à l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour cultiver le sol et le garder. Le Seigneur Dieu modela du sol toute bête des champs et tout oiseau du ciel, qu'il amena à l'homme pour voir comment il les désignerait. Tout ce que désigna l'homme avait pour nom être vivant. L'homme désigna par leur nom tout bétail, tout oiseau du ciel et toute bête des champs, mais pour lui-même, l'homme ne trouva pas l'aide qui lui soit accordée.
Nous sommes donc en présence de deux visions bien différentes du rapport homme-nature. Au-delà de leur opposition, que nous disent vraiment ces premiers chapitres ? Que la nature en tant que création représente essentiellement un don fait par le Créateur aux humains, un moyen d'exercer leur vocation chrétienne. Cette création est bonne, en effet. En dépit de ce qui l'abîme et le défigure, l'œuvre de Dieu est fondamentalement bonne. Elle mérite qu'on l'admire, sans l'adorer, et qu'on en prenne soin. On se méprend quand on lui accorde un rôle seulement utilitaire en la réduisant à un réservoir ou à un magasin qu'on peut utiliser sans limite. Cette création se fait par la parole et nécessite une réponse active. Bergson a dit « Dieu crée en rendant créateur ». La parole créatrice, le verbe hébreu vient d'une racine signifiant « tailler » ou « découper », cette parole sépare, transforme un chaos confus et indistinct en un cosmos pluriel et organisé. Dieu trie, démêle le fouillis, met de l'ordre dans le fatras, un peu comme une mère de famille rend sa maison agréable à vivre à partir de la pagaille laissée par ses enfants et parfois son mari. Cette réorganisation cohérente permet l'émergence d'existences qui n'auraient pu se maintenir dans le chaos précédent. De même qu'une cuisinière confectionne un plat qui ne contient rien d'autre que les ingrédients prévus, mais qui est tout autre chose que la juxtaposition de ces ingrédients. Ainsi apparaissent le jour, la nuit, la mer, les continents, et puis le soleil, la lune, les étoiles, l'herbe et les arbres, les poissons, les oiseaux, les serpents, les quadrupèdes, etc. Tout ceci n'ayant bien entendu aucune valeur scientifique ni historique. Nous sommes confrontés à une parole qui nous demande de répondre et nous rend du coup responsables, ni autonomes, ni automates. L'acte créateur n'installe pas une permanence, il suscite et génère un mouvement, il fait bouger les choses. Il n'invite nullement à la passivité, en répondant à la parole divine, principe de l'existence chrétienne, nous agissons pour faire reculer le chaos. La grâce mobilise et rend actif. Le premier récit de la création montre une multiplication, une diversification des formes vivantes, avec chacune un habitat spécifique, un entrecroisement des manières d'habiter le monde que Dieu trouve bon. La diversité est en soi un bien et doit être protégée. Les moindres petites différences ont leur place. La séparation créatrice établit des différences qui permettent des relations, qui suscitent des dialogues, dialogues qui n'auraient pas pu avoir lieu dans l'indistinction. Le deuxième récit de la création, qui en réalité est antérieur, se trouve coupé du premier, en fait à la fin du verset 3 du chapitre 2.
Ainsi furent achevés le ciel et la terre avec toute l'armée de ce qu'ils contiennent. Au septième jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le septième jour, il en fit un jour qui lui est réservé, car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie.
Vous avez vu dans le deuxième récit que Dieu a besoin d'un homme pour cultiver. Il a besoin d'un homme pour que la terre ne soit pas un désert. Avant même d'être créé, la fonction première de l'homme sera donc de servir la terre. Contrairement au premier récit de la création, c'est ici lui qui est le premier être créé. Sa vocation est de travailler et de sauvegarder le milieu de vie dans lequel il est placé. Sa vocation conjugue liberté et responsabilité, c'est-à-dire qu'elle propose les prémices d'une éthique. Mais pour cela, il a besoin d'altérité, il ne peut pas se débrouiller seul. Et ici apparaît le langage humain. Dieu n'est plus seul à parler, c'est l'homme qui crée d'une certaine manière les animaux, qui les amène à l'existence et leur permet d'avoir le souffle de vie en les nommant, ce qui est d'ailleurs une forme de domination dans l'Orient ancien. Les animaux ne suffisant pas comme aide, la femme est créée à son tour, et là encore, c'est lui qui la nomme. Elle lui est à la fois semblable, mais différente. C'est la seule à ne pas être tirée de la terre. Les premiers chapitres du livre de la Genèse, on pourrait même aller jusqu'au chapitre 11, de la création à l'histoire de Noé et à la tour de Babel, ces premiers chapitres soulignent donc la dignité et la responsabilité humaine, mais aussi la disposition écologique du monde. Les milieux de vie, dans les trois premiers jours, les êtres vivants, dans les trois suivants, constituent une structure qui aboutit à la plénitude du repos au septième jour. L'exégèse contemporaine souligne sous la bénédiction les dispositions fondamentales en faveur de la vie, dont les récits de la création annoncent la mise en place et la diversité. Elle met en valeur les différences complémentaires au sein du créé et accentue l'appartenance de l'humain et son intégration à un ensemble qui le précède et le dépasse. L'homme est co-créature. Et en même temps, il est sous un angle différent mis à part comme représentant et partenaire responsable du Dieu créateur. Un sujet responsable accepte d'être confronté à d'autres réponses, à d'autres formes de vie. C'est un sujet qui honore la différence. L'alliance que Dieu nous a proposée implique durée et fidélité, inspirant nécessairement des réflexions sur la conservation du monde et la protection des conditions fondamentales de la vie, et aussi l'idée, même si l'initiative appartient toujours à Dieu, l'idée d'un engagement réciproque qui doit se concrétiser par un comportement correspondant. Elle évoque donc en même temps la promesse et l'exigence. Les deux récits se rejoignent finalement dans une histoire de responsabilité et de dépendance. La vie moderne entraîne une complexification des interdépendances et l'élargissement dans l'espace et le temps de la sphère d'action de l'individu, qu'il soit considéré comme un sujet libre et agissant ou avec fatalisme et scepticisme quant à sa capacité à échapper à des forces extérieures. L'aveu de notre faillibilité n'étant pas pour autant une décharge de responsabilité, mais simplement de la lucidité et une question d'honnêteté. Il permet un bon usage de la responsabilité, avec prudence, en toute connaissance de notre propre fragilité. Notre responsabilité est engagée envers tous les hommes. Rappelez-vous le titre d'un livre de René Dumont, je crois, « Quelle terre laisserons-nous à nos enfants ?» mais aussi envers les autres entités du monde vivant et envers Dieu lui-même en tant que créateur et père. Ce doit être une responsabilité active face aux conséquences les plus lointaines de nos décisions, une responsabilité devant nos descendants qui risque de payer le prix de notre insouciance ou de notre excessive présomption à vouloir tout maîtriser par une drastique réduction de leur capacité de choix et donc de la possibilité d'exercer leur propre responsabilité. Nous devons accepter l'idée que l'unité de l'humanité par filiation, donc dans le temps, implique à la fois une ressemblance et une différence. Nos descendants sont et seront autres, et nous n'avons pas le droit de nous identifier à eux et surtout pas le droit de faire retomber sur eux les conséquences de nos comportements. Il n'est pas question de punir les enfants pour les péchés de leur père. Honorer la différence voulue par Dieu, c'est donc aussi admettre la possibilité d'une autre vie après nous, pour habiter la terre pour autrui. Alors, que pouvons-nous faire ? Dominer et contrôler ou cultiver ? Mon choix est clair, cultiver. Mais cela implique un choix de société pas si simple. Actuellement, la crise écologique montre trois symptômes. Raréfaction des ressources et disparition d'espèces. Accumulation de déchets et de nuisances entraînant des changements climatiques. Et surpeuplement. Le concept de développement et encore plus celui de développement durable est une notion récente qui ajoute à celle de croissance essentiellement économique des critères sociaux et culturels et permet ainsi une appréciation qualitative globale de la situation d'une population et plus largement du monde. Ainsi, la gestion de l'environnement est liée à la justice sociale et internationale. La politique énergétique aussi bien que la consommation d'énergie au quotidien sont de l'éthique sociale. Les pays industrialisés, je vous le rappelle, sont responsables à 90% des dommages plus ou moins irréversibles que l'on observe. Les églises réfléchissent dans ce sens et cherchent à agir concrètement. Je pense par exemple à des organismes de microcrédit comme Oikocrédit. Les positions protestantes plaident en général pour une agriculture paysanne et des exploitations familiales à taille humaine, pour une exploitation du sol respectueuse de ses équilibres et de ses cycles biogéochimiques, et relie la valeur du travail à celle du repos. Écoutez par exemple ce qu'en dit Exode au chapitre 23.
Pendant 6 années, tu ensemenceras la terre et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e, tu lui donneras du répit, tu la laisseras en repos. Tu le faucheras et le laisseras sur place. Les pauvres de ton peuple en jouiront et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour tes oliviers. Pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour, tu te reposeras, afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ta servante et l'émigré reprennent leur souffle.
Le travail effréné ne fait donc pas partie du projet de Dieu. Le sabbat, jour de repos en mémoire de la fin de la création et du repos de Dieu, est l'occasion périodiquement offerte d'abandonner la peine et la lutte de toute vie et de se rapprocher du shalom, ce qui signifie absence de violence sur toute la terre habitée, donc un idéal de paix et de justice entre toutes les créatures vivantes, une exigence absolue du respect de la vie. L'exploitation cède la place à la solidarité communautaire vécue dans la joie. De même, l'année sabbatique institue une année de jachère tous les 7 ans, et attribue sa production spontanée à tout le monde sans distinction, y compris le bétail et les animaux sauvages. Le repos de la terre est ainsi intimement lié à un nouveau souffle pour la justice sociale, comme aussi d'ailleurs l'année de jubilé, tous les 50 ans. Depuis les années 1990, on encourage au niveau européen un temps pour la création, consacré à la célébration du Dieu créateur, qui englobe la journée de la création des orthodoxes, le 1er septembre, la fête catholique de Saint-François d'Assise, le 4 octobre, et la fête des récoltes protestantes, une célébration traditionnelle qui a, paraît-il, tendance à retrouver sa place dans le cycle de l'année liturgique et qui rappelle que toutes les ressources de la terre sont un don de Dieu à recevoir avec reconnaissance et à respecter. À défaut, vous pouvez remarquer que de nombreux textes bibliques louent Dieu pour la création. Je vous propose par exemple de relire le psaume 104 ou bien le psaume 148 ou encore ce texte magnifique qu'on appelle le psaume de Daniel au chapitre 3 du livre de Daniel. Louer, ce n'est peut-être pas grand-chose, mais si on se place dans cet esprit-là, il devient difficile de détruire en même temps. Le récit de la création déclare que Dieu seul est Dieu. Si on vénère ce qui le manifeste ou vient de lui, on tombe dans l'idolâtrie. La pensée protestante rejette toute sacralisation et à plus forte raison toute idolâtrie de la nature et rejette avec la même vigueur toute auto-glorification de l'humain. Elle cherche à établir le rapport humain-nature dans une sobre reconnaissance, sans idéalisation ni démonisation. Elle s'inscrit dans une dialectique de respect et de prospection, de contemplation et de travail, de lutte et d'émerveillement. L'idée de sobriété et de droit des générations futures englobe une tradition d'ascétisme modéré ou de frugalité, un certain style de vie, à pratiquer par les particuliers comme par les collectivités, qui peut être un élément de témoignage en réorientant positivement les connotations de restriction et de privation. Vous pouvez lire le livre de Pierre Rabhi « Vers une sobriété heureuse ». Ce serait un signe de partage avec les plus démunis et de respect pour la création. Économie d'énergie, entre autres par une réduction des déplacements et une préférence donnée aux transports en commun. Utilisation de produits de nettoyage et de lessive respectueux de la qualité des eaux. Alimentation simple, équilibrée, produite dans des conditions compatibles avec la protection des animaux et du milieu et le moins loin possible du consommateur. Réduction et recyclage des déchets, etc. Il serait bien entendu prétentieux de vouloir sauver le monde alors qu'il s'agit seulement de le servir avec respect. On doit bien entendu se garder aussi bien du simplisme éthique que du messianisme utopique. Mais la crise écologique entraîne forcément une remise en question de nos manières de croire, de penser et d'agir, une interrogation sur les buts et fondements de la civilisation scientifico-technique, un appel à la conversion, c'est-à-dire au choix entre la vie et la mort. Elle suggère un art de vivre coïncidant plus ou moins avec celui de la sagesse. Depuis que l'homme existe, il cultive et modifie la création pour son seul profit. Mais maintenant sont apparues des limites, faisant peser sur lui de terribles responsabilités. Il est frappant de constater qu'à une époque où les problèmes écologiques ne se posaient pas, l'intuition et la sagesse des auteurs du récit biblique les aient conduits à souligner que la vocation fondamentale de l'homme était de veiller à la conservation du milieu naturel. L'homme, issu de la terre, est responsable de la terre et de tout ce qu'elle produit. Dieu se dessaisit de cette énorme responsabilité. Calvin dit que l'homme devient l'économe de Dieu. Il faut cependant distinguer entre être responsabilisé par Dieu et se prendre soi-même pour Dieu. L'alliance implique un partenariat et fait de chaque humain le lieutenant de Dieu, responsable devant lui. Alors que si l'homme devient Dieu, il ne peut plus être partenaire. Je vous propose, pour conclure, une prière qui a été écrite par Mgr Etchegaray, évêque de Lyon à l'époque, en 1991.
Envoie-nous, Seigneur, ton esprit de lumière. Apprends-nous à marcher sous un morceau de lune autant qu'en plein soleil. Apprends-nous à regarder devant et à ne pas confondre ce qui était hier avec ce qui sera demain. Envoie-nous, Seigneur, ton esprit de sagesse. Apprends-nous à créer avec toi chaque jour du neuf et à ne pas cueillir des fleurs fanées sur un sentier usé. Apprends-nous, devant une paroi, à repérer la petite prise qui ouvre le petit passage. Envoie-nous, Seigneur, ton esprit de force. Que nos bras, alourdis par l'échec, retrouvent l'énergie de planter 1000 arbustes pour un monde nouveau. Amen. Je vous rappelle qu'il y a culte chaque dimanche à 10h30 au temple 20 rue Saint-Thomas à Chartres. Merci à Boussico Menera. Je vous dis au revoir et à bientôt.
Die Nacht, die verschwand der folgenden Nacht.